Voilà, eh bien, l'autre jour à la télévision, un savant français, le prince Ringuet, qui s'exprimait d'ailleurs en chrétien qu'il est, disait « Il faut absolument entreprendre quelque chose pour éviter notre mise en cercueil. » Pour éviter notre mise en cercueil. Il ne parlait pas, bien entendu, de la mise en cercueil des morts, qui est une chose douce et inoffensive. Mais il parlait de la mise en cercueil des vivants, de notre mise en cercueil. Parce qu'il y a dans notre vie beaucoup de choses qui entendent nous mettre en cercueil tout vif. Il y a, bien sûr, parmi les choses qui veulent nous mettre en cercueil tout vif, nos folies, nos crimes, nos violences, nos injustices, on sait la suite. Mais peut-être que plus encore que les folies et les injustices et les violences veulent nous mettre en cercueil tout vif, vous le savez bien, nos doutes, notre vide intérieur, nos désespoirs. Voilà. C'est surtout ça qui est dangereux. Les deux hommes qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, ils ont l'air bien, ils ont l'air de se porter bien, même sur leurs deux pieds. En réalité, ce sont des hommes mis en cercueil. Leur espérance est morte. Et ils sont morts en même temps que leur espérance. Ils marchent, mais ils ne vont plus nulle part. Ils ne croient plus à rien. Ils sont encerclés vivants. Eh bien, nous, ce n'est pas seulement nos doutes. Et eux non plus, d'ailleurs. C'est peut-être pas tellement leurs doutes qui les encerclent. Vous savez ce que c'est qui les encerclent? Eh bien, c'est leurs idées trop petites. Parce qu'ils ont des idées petites. Ça arrive très facilement. Voyons. Leur idée, c'est que quand on est mort, on est mort. Alors, Jésus est mort, il est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, est-ce qu'on peut voir ou est-ce qu'on peut croire le contraire de ce qu'on voit? On a vu Jésus mourir, il est mort, bon ben c'est fini. Et à ce Jésus qui les a rejoints, vivants, mais qu'ils ne peuvent pas reconnaître, justement dans l'idée, leur petite idée les remplit tout entier. Que quand on est mort, c'est justement à lui qu'ils disent « Est-ce que tu es le seul étranger à Jérusalem qui ne sache pas que Jésus, c'est fini ?» Pour eux, c'est fini. Ils sont encerclés dans leurs idées, trop petites. C'est la même chose avec nous. Nous doutons, nous aussi, de la résurrection. Nous ne doutons pas de Dieu, en général. On sait bien qu'il y en a un plus grand que nous. Mais alors la résurrection, ça paraît décidément un peu trop grand. Alors ça, on doute de la résurrection. On croit en Dieu, mais on ne croit pas en la résurrection. Vous savez ce qu'on fait quand on ne croit pas en la résurrection? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne croit pas en la résurrection? Quand on ne croit pas en la résurrection, alors on croit à la mort. Mais je veux dire à la mort toute puissante, comprenez. Ne pas croire à la résurrection, c'est croire que c'est toujours la mort qui a et qui aura le dernier mot. La mort toute puissante. C'est à ça qu'on croit quand on ne croit pas à la résurrection. Dieu tout puissant. La mort toute puissante. Ah ben, ça fait deux tout-puissants, il y en a un de trop. Il faut choisir. Il faut se décider. Il faut choisir. À moins qu'on ne veuille changer un peu le Notre Père. Vous savez, et le terminer désormais en disant, car c'est à toi, ô mort, qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qui nous empêche de croire à la résurrection? Est-ce que c'est parce que ça ne s'arrange pas bien avec ce que nous voyons? Mais vous savez, ce qu'on voit, ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui existe, de toute façon. Alors, si la résurrection ne s'arrange pas tellement bien avec ce que nous voyons maintenant, ça n'a pas tellement d'importance. Il y a des gens qui achoppent, enfin nous achoppons souvent sur des détails. Il y a des gens qui disent « je croirais à la résurrection si nous n'étions pas aussi nombreux sur la terre ». Ils ont peur d'être serrés. C'est des idées un peu serrées, elles aussi. Ou bien, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que nous n'arrivons pas à imaginer les choses, à comprendre, parce que ça... D'ailleurs, vous savez, soit dit entre parenthèses, croire à la résurrection, ce n'est pas comprendre la résurrection, ça c'est une toute autre affaire. Et qu'est-ce que nous avons compris à notre première naissance? Alors laissons Dieu faire pour la seconde, pour le second acte créateur. Il est spécialiste. Mais, quant à nous, si ça n'entre pas dans nos petites idées, la résurrection, il ne faut pas nous laisser encercueiller dans nos petites idées. Vous savez, on l'a dit, ça a été dit, mais ça n'a pas été assez bien entendu. On a dit, dans un monde qui se présente comme une énigme de chaque instant, il n'est pas étonnant que la vérité soit surprenante, incroyable. Voilà. Voilà ce qui est juste. C'est que la vérité, naturellement, est surprenante et incroyable. D'ailleurs, vous savez, à propos de choses qui entrent ou qui n'entrent pas dans nos idées, il y a dans un des plus anciens films de Charlot, et Charlot, vous savez, il faut aller le chercher dans ses films, plutôt qu'au fond de sa tombe pour sortir son cercueil, comme on l'a fait l'autre jour. Bon, eh bien, dans un de ses plus anciens films, il y a un épisode merveilleux dans lequel Charlot part en voyage. Alors, il se prépare pour partir en voyage. Il fait sa valise. Il a choisi une valise. Il l'a choisi un peu petite. Alors, il ramasse tout ce dont il a besoin. Et puis, il le met dans la valise. Et puis, il bourre. Et puis, il serre. Et puis, il grimpe sur sa valise. Et puis, il met une courroie autour de la valise. Puis, il tire sur la courroie de toutes ses forces. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il a beau faire tout ce qu'il veut. Il y a toujours encore une jambe de pyjama qui dépasse à un endroit. Deux bras de chemise par derrière. Un demi-veston par devant. Alors, tout à coup, il a une idée extraordinaire. Il va chercher des ciseaux. Puis, il coupe tout ce qui dépasse. Et après ça, il est très content. Et il se dit qu'il est prêt à partir en voyage. Vous savez, la valise de nos idées, elle est très petite aussi. La valise de ce que nous pouvons comprendre, elle est un peu trop petite. Et nous voulons mettre dedans la vie et tous ses mystères. Alors, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui dépasse. La résurrection, par exemple, ça dépasse un peu. Alors, on va chercher les ciseaux, on coupe. Après quoi, on se croit prêt pour le départ. Vous voyez? Non, vous savez, il y a longtemps d'ailleurs aussi que Shakespeare, chacun connaît ça, a fait dire à l'un de ses personnages, il y a plus de choses dans le ciel et dans la terre, Horatio, que n'en peut rêver ta philosophie, ton petit système, tes petites idées. Il ne faut pas se laisser encercueiller dans nos systèmes trop petits. D'ailleurs, il y a une parole bouleversante du Christ. Vous la connaissez bien. Il a dit, dites-moi parmi vous, est-ce qu'il se trouverait un seul père qui, si son fils lui demande du pain, lui répondrait en lui donnant des pierres? Et il disait, alors si vous, avec ce que vous valez, Vous savez, donner de bonnes choses quand vos fils vous les demandent, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, est-ce que vous croyez sérieusement que quand pendant toute une vie, on demande à Dieu le pain de vie, il va nous répondre avec les pierres du cimetière? Les deux hommes qui s'en vont sur le chemin d'Emmaüs. Quelque chose va les sortir de leur cercueil. Et ce quelque chose, c'est un signe que Jésus va leur donner. Jésus qu'ils n'ont toujours pas reconnu. Bien sûr que non, ils sont tellement enfermés, ils sont tellement arrêtés. Mais tout à coup, le signe que Jésus va leur donner. Ce pain qu'il va rompre, comme il l'a fait avec eux le jeudi saint, comme il va le faire avec nous tout à l'heure. Ce pain qu'il rompt, tout à coup c'est le signe. Le signe enfin plus fort que, vous savez, que la courroie de leur valise à la Charlot. Alors tout à coup ils comprennent. Alors, tout à coup, ils le voient, ils le reconnaissent. Vous me direz, oui, mais Jésus leur a donné plus qu'un signe, puisqu'il était là lui-même. Oui, mais vous avez remarqué aussi qu'au moment où les deux hommes ont reçu le signe, au moment où ils l'ont décodé, au moment où ils l'ont compris, à cette instant même, Jésus disparaît. Non, 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 nous ne sommes pas. Les deux hommes d'Emmaüs n'étaient pas et nous non plus avec eux. Nous ne sommes pas dans le temps des présences visibles. Nous sommes bel et bien, après la résurrection du Christ, dans le temps des signes visibles, mais d'une présence qui reste invisible. Voilà ce qui est vrai. Mais le signe a suffi aux deux hommes, et peut-être nous suffira-t-il à nous aussi, pour repartir en sens inverse. Et ils sont remontés à Jérusalem, et non seulement ils sont remontés à Jérusalem, ce qui aurait été encore peu de choses, mais ils sont remontés dans leur espérance, ils sont remontés dans leur courage, ils sont remontés dans leur joie. Ils sont devenus d'autres hommes. Ils se sont désencercueillés, enfin vivants. Ah, une espérance refaite. Voilà. Et non seulement ils sont vivants, mais encore, ils sont maintenant capables, beaucoup mieux qu'avant, leurs idées, vous voyez, s'étant un peu élargies. Ils sont capables, beaucoup mieux qu'avant, de voir les signes qui leur sont encore donnés. Parce que les signes, c'est vrai, il faut les voir. Et ce n'est pas toujours si facile que ça. Avec nos idées tendues comme des élastiques trop petits, et avec nos yeux qui voient toujours un peu moins bien que nous ne croyons, eh bien, les signes, ce n'est pas tellement facile à voir. Surtout qu'on s'occupe de tant d'autres choses qui nous font signe, elles aussi, que les signes de Dieu, ça n'est pas facile à voir. Tout le monde connaît la phrase de Saint-Exupéry, elle est fameuse, mais elle mériterait de l'être davantage encore. Quand Saint-Exupéry dit, n'est-ce pas, on ne voit bien qu'avec le cœur. Les choses importantes sont invisibles pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. D'accord. Mais avec un cœur dans quel état? Ça, c'est la question. Physiquement, on peut avoir un cœur qui nous empêche de monter un peu rapidement un escalier. Mais spirituellement, on peut avoir un cœur qui nous empêche de monter une seule marche en direction de Dieu. Mais voyons, si j'ai un cœur qui ne cherche rien, vous savez que Jésus a béni celui qui cherche, peut-être encore plus que celui qui trouve, quoiqu'il ait promis à celui qui cherche qu'il trouvera. Si j'ai un cœur qui cherche rien, si j'ai un cœur qui est rempli de moi-même et hélas content de moi-même, si j'ai un cœur qui n'a jamais, qui ne dit jamais, j'ai soif de Dieu, j'ai soif du Dieu vivant. Bon, j'ai un cœur qui n'a jamais soif, quand même il est sec. Hein? Si j'ai un cœur qui n'est préoccupé d'aucune nouvelle naissance, sinon de celle que représente la prochaine voiture, nouvelle naissance. Alors, comment est-ce que vous voulez que ce cœur voit quelque chose? Comment vous voulez que ce cœur voit les signes de Dieu? Quand je sais rien, quand je sens rien, quand je vois rien, quand je n'admire rien, quand je ne suis reconnaissant pour rien, qu'est-ce que je découvre dans la plus belle forêt? Qu'est-ce que je rapporte du plus beau voyage? Qu'est-ce que je retire de la rencontre la plus extraordinaire avec la bête la plus extraordinaire ou avec l'homme le plus extraordinaire? Quoi? Qu'est-ce que je sors de la plus belle musique? Qu'est-ce que je sors du plus beau tableau? Alors, si je ne vois rien nulle part, si je n'aperçois nulle part des choses qui ont valeur de signe, qui font vibrer mon cœur, qui m'ouvrent les yeux, qui enlèvent la courroie de ma, vous savez, de ma petite valise, si jamais je ne vois rien, comment voulez-vous que je voie les signes de Dieu? Et si je ne vois pas les signes de Dieu, comment voulez-vous que je voie dans la vie autre chose qu'une chose absurde? Et dans la maladie, autre chose qu'une injustice? Et dans la mort, autre chose que, et puis on t'enterre, et puis c'est fini? Je crois que, je vous le disais l'autre jour, je ne me rappelle plus, mais on raconte que Grenade, je ne suis jamais allé, que Grenade est une ville si belle, si admirable, où il y a tant de choses magnifiques à voir. Allez, ça c'est pour les cœurs qui peuvent voir. Qu'il paraît que la plus grande misère, le plus grand malheur, c'est d'être aveugle à Grenade. Bon. Je me demande si, sur les chemins de ma vie, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, je ne suis pas aveugle quelquefois, moi aussi. Et si ce n'est pas un beaucoup plus grand malheur que d'être aveugle à Grenade. Maintenant, il faut dire peut-être encore une dernière chose. Vous savez, il ne suffit peut-être pas de voir les signes. Peut-être qu'il faut encore leur répondre. Peut-être que tant qu'on n'a pas répondu aux signes, on ne les a pas encore bien vus. Les signes de la résurrection, pour les avoir bien, pour être sûr de les avoir bien vus, reconnus, il faut leur répondre par des actes de résurrection. On me dirait, bon, qu'est-ce que c'est qu'encore que ça? Des actes de résurrection. Eh bien, vous savez, c'est très simple au fond. Ce sont les actes pour lesquels nous vivons. Les seuls qui valent la peine, c'est-à-dire les actes qui méritent d'être ressuscités. Vous ne pensez quand même pas que tout ce qui se passe dans notre vie mérite d'être ressuscité. Non. Mais de temps en temps, il s'y passe quelque chose qui mérite, peut-être faut-il mettre ce mot entre guillemets, d'être ressuscité. Mais des choses toutes simples. Un acte qui crée de la beauté parmi les hommes, c'est un acte qui mérite d'être ressuscité. Non? Un acte qui crée quelque chose d'utile, mais qui fait pousser le blé. Un acte qui fait pousser le blé, c'est un acte qui, d'une manière ou d'une autre, mérite d'être ressuscité. un acte qui, je ne sais pas, qui recoud bien un ventre, un acte qui, je ne sais pas, qui fait la vaisselle avec amour. Ça peut peut-être arriver, ça, avec une machine et avec amour, ou sans machine, et, enfin, je ne sais pas. Un acte de résurrection. C'est très important, les actes. Non seulement parce que ce sont les actes, mais comprenez, quand je dis actes, ça veut dire aussi des attitudes, des paroles, des entreprises, tout ce qu'on veut. C'est très important, les actes, parce que les actes, ça change un peu le monde. Pas beaucoup, mais ça change quand même un petit peu. Ce qu'on fait à Yan et à Saint-Livre, ça ne bouleverse pas le monde, mais ça le change quand même. En bien ou en mal, mais... Et puis, un acte, ça nous change nous-mêmes, surtout. Quand je fais quelque chose de bien, alors je deviens mieux. Quand je fais quelque chose qui procure de la lumière, alors je vois mieux la lumière, et plus je vois la lumière, plus j'ai envie de faire des choses qui produisent de la lumière. Vous voyez, c'est la boule de neige. Jésus en a parlé. Voilà, alors, un acte qui crée de la beauté. Je vous ai raconté une fois l'histoire du peintre Renoir. Bon. Renoir, il avait 80 ans, 80 ans. Il avait les mains tordues de rhumatisme. Et il peignait toujours au milieu des plus grandes souffrances. Et Matisse, l'autre peintre, eh bien, il lui disait, mais Renoir, pourquoi? Au milieu de tant de souffrances, pourquoi souffrir comme ça pour peindre encore? Et Renoir lui répondait, c'est parce que la souffrance passe, mais la beauté demeure. Voilà. Souffrir pour que la beauté demeure. C'est peut-être même ce que fait M. Aldo Moro. C'est un acte de résurrection. On ne peut pas faire la liste, il y en a tellement. Pardonner, c'est un acte de résurrection. Se réconcilier, c'est un acte de résurrection. On ne veut pas faire la liste, mais chacun invente lui-même les actes de résurrection par lesquels il peut répondre aux signes de résurrection, ce qui fait qu'on les voit toujours mieux. Mais je voudrais juste dire ça encore, juste, qu'en fait d'acte de résurrection, il y a de très jolies possibilités du côté de l'amour. Et par exemple, je ne suis pas le seul, par exemple, de très jolies possibilités du côté de l'amour entre l'homme et la femme. À condition quand même que cet amour regarde un peu du côté de toujours. À condition que cet amour s'élance un peu vers l'éternité. Non, mais vous savez, l'avenir est à l'amour, puisque l'avenir est à Dieu et que Dieu est amour. C'est assez clair. Seulement, encore faut-il que notre amour dure jusqu'au bout, comme celui du Christ, qui a aimé les siens jusqu'au bout, nous a-t-il dit. C'est dommage qu'on se mette à croire un peu trop, pas pour très longtemps, je crois. Mais c'est quand même dommage qu'on se mette à croire un peu trop aux amours bout de ficelle. Un petit bout par ici, un petit bout par là, on n'a plus que du court, du très court, du trop court. Une fille pour l'été, un mariage pour 5 ans. On met des dates limites sur l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je sens que ça va me passer. Alors on met une date limite. On met des dates limites sur l'amour comme sur les yogourts. Sur les yogourts, c'est très bien. Il faut, disait le prince Ringuet, absolument entreprendre quelque chose pour éviter notre mise en cercueil. Pour ça, Christ est ressuscité. Quant à nous, on est assez sur le bon chemin, puisque, comme le chemin d'Emmaüs, c'est aussi son chemin, le chemin de notre vie. À condition de savoir le reconnaître. Et aussi, par conséquent, à condition de voir ce qu'il y a à voir, de savoir entendre ce qu'il y a à entendre et de savoir faire ce qu'il y a à faire. Amen.